Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode de La vie symbolique avec Jonathan Pajot et Jean-Philippe Marceau. On va continuer à faire ce qu'on avait commencé la dernière fois, c'est-à-dire passer à travers les récits de création dans la Genèse. On a fini Genèse 1 la dernière fois. Aujourd'hui, on va parler de Genèse 2. On va voir si on réussit à se rendre à Genèse 3, parce que je pense qu'en parlant de Genèse 2, on va naturellement beaucoup passer de temps à comparer Genèse 1, Genèse 2. Comment ça se fait que c'est aussi différent le récit qu'on voit dans Genèse 2, justement? Je pense que la meilleure façon de procéder, ça va être que je lise le texte de Genèse 2 au complet. Puis ensuite, on va faire ressortir les points, on va comparer. Puis ça va, je pense, ce qui va être le plus intéressant, c'est qu'on va de revisiter certains débats qu'on a déjà eus par le passé, là, entre autres la vision plus phénoménologique des choses versus la métaphysique classique, parce que ça se cadre chacune dans Genèse 2, Genèse 1. Puis ce serait intéressant de parler comment Jésus résout ça aussi dans l'incarnation, surtout si on est capable de parler de Genèse 3, mais c'est pas grave, on peut parler de Genèse 3 un autre jour. Fait que pour aujourd'hui, là, je vais commencer par juste lire le texte de Genèse 2. Ainsi furent achevés le ciel et la terre et tout leur déploiement. Le septième jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le septième jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le septième jour. Il le sanctifia puisque ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait faite. Telle fut l'origine du ciel et de la terre lorsqu'ils furent créés, lorsque le Seigneur Dieu fit le ciel et la terre. Aucun buisson n'était encore sur la terre, aucune herbe n'avait poussé, parce que le Seigneur Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour travailler le sol. Mais une source montait de la terre et irriguait toute surface du sol. Alors le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol, il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et y plaça l'homme qu'il avait modelé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour irriguer le jardin, puis il se divisait en quatre bras. Le premier s'appelle le Pishon, qui contourne tout le pays de Havila, où l'on trouve de l'or, et l'or de ce pays est bon, ainsi que de l'ambre jaune et de la corraline. Le deuxième fleuve s'appelle le Gihon, qui contourne tout le pays de Couche. Le troisième fleuve s'appelle le Tigre, il coule à l'est d'Assour. Le quatrième fleuve est l'Euphrate. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le conduisit dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille et le garde. Le Seigneur Dieu donna à l'homme cet ordre: tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le Seigneur Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. Avec de la terre, le Seigneur Dieu modela tous les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les amena vers l'homme pour voir quel nom il leur donnerait. C'étaient des êtres vivants. Et l'homme donna un nom à chacun. L'homme donna donc leur nom à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux et l'homme s'endormit. Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis il referma la chair à sa place. Avec la côte qu'il avait prise à l'homme, il façonna une femme et il l'amena vers l'homme. L'homme dit alors: cette fois-ci, voici l'eau de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme, Isha. Elle qui fut tirée de l'homme, Ish. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et tous les deux ne feront plus qu'un. Tous les deux, l'homme et sa femme, étaient nus et ils n'en éprouvaient aucune honte l'un devant l'autre. Donc, voilà pour Genèse 2. Comme on avait
Mais
dit,
la
c'est
première chose,
assez.
c'est que la façon que le texte est séparé, c'est un peu étrange, tu sais, au niveau narratif, là, parce que le chapitre 2 commence avec la fin de la première histoire, c'est-à-dire le septième jour. Puis, tu sais, à cause de ça, c'est un peu étrange, parce qu'après, c'est comme si l'histoire recommence, en fait, une autre version de l'histoire. Fait que, tu sais, peut-être c'est important de dire juste, parle un peu du septième jour, là, parce que c'est le septième jour, c'est vraiment important dans le symbolisme. C'est l'idée que le septième jour, c'est le jour où il n'y a pas de travail, c'est comme le jour de repos. C'est assez mystérieux là, au niveau de la création. C'est comme si Dieu agit, puis après ça, Dieu se retire de l'acte de créer, puis il se repose, il est comme plus actif dans la création pendant le septième jour. Il est comme Ouais, ça, il est passif ou il est retiré. Déjà, ça, c'est assez particulier là, comme symbolisme. Deux, il y a aussi l'idée que cette structure-là devient une structure qui continue dans le monde. C'est pas juste que Dieu s'est reposé le septième jour, mais que ça devient comme la structure du monde où tu as 7 jours, 6 jours de travail, puis 7 jours qui est comme le jour de repos. Pour ceux qui ne savent pas, mon frère, il en parle du sabbat dans son livre, il donne vraiment une interprétation qui, selon moi, est la plus surprenante et la meilleure. C'est-à-dire, il démontre que quand tu es avec un cercle, si tu prends comment on appelle ça, le radius du
Oh,
cercle,
le rayon.
le rayon, c'est ça, parce que je pensais en anglais, si je n'arrivais pas à le traduire.
Correct.
Ouais, c'est le rayon du cercle. Puis, si tu utilises le rayon du cercle pour mesurer un cercle, tu arrives à 6 mesures et une mesure qu'on ne peut pas totalement quantifier, qui est comme
Reste.
un reste de la mesure. Tu sais. Puis que c'est un peu comme ça que Matthieu comprend l'idée du repos, là, c'est-à-dire que tout acte de connaissance ou d'action ou de tout acte de nommer va toujours laisser des résidus, c'est-à-dire on ne peut pas avoir un monde qui est totalement, qui est à la fois courant et complet. C'est un peu comme ça que Matthieu le présente aussi. Et donc, on a besoin toujours d'avoir une sorte de résidu qui est gardé à part pour empêcher, ben, pour que le monde puisse continuer d'exister. T'sais. Puis tu peux imaginer que c'est ça aussi que le repos est dans notre vie. T'sais, on ne peut pas juste toujours travailler, qu'on doit se reculer pour laisser de la place un peu pour les choses de se reformer, là. Fait que ça, c'est. Puis ça devient, tu sais, le symbolisme de la. Il y a comme un aspect du symbolisme qui est la mort. Puis ça, c'est le truc qui est le plus compliqué aussi pour les gens à comprendre. Ben, pas qui est compliqué, c'est parce que les gens ils disent toujours le 7, c'est un nombre saint, c'est un nombre, c'est sacré dans la Bible et tout, mais le symbolisme du sabbat, il en fait beaucoup plus mystérieux parce qu'il est lié avec le jour de repos. Puis le repos, c'est relié avec la mort. On le voit déjà quand Dieu fait dormir Adam pour sortir Ève de lui, mais finalement, dans le christianisme, on dit que le grand sabbat, c'est le jour où Jésus est dans la tombe, en fait. Puis là, c'est là qu'on voit tout le mystère du sabbat, là.
Est-ce que tu sais pourquoi, relié à ça, Genèse 2 commence avec ça? Naïvement, tu sais, j'aurais tendance à placer le septième jour dans Genèse 1 à la toute fin
Aucune
parce
idée.
que on
Non,
est
ça, je
dans.
ne sais pas pourquoi. Tu sais, je sais pas c'était quoi la décision des éditeurs de la Bible. Ça doit être une décision qui a été faite il y a très longtemps. Tu sais, pourquoi Genèse 2 est séparé de la façon qu'il est séparé? J'ai aucune idée. C'est assez bizarre parce que tu sais, naturellement, tu le vois quand tu lis le texte et tu le lis, tu vois que ça finit. Puis là, ça recommence. Ah, voici la génération du ciel et de la terre, comme si là, il y a comme une autre chapitre vraiment où tu sais, on va raconter une autre version de la même histoire. Ouais, ça c'est particulier. Ça serait intéressant de regarder là, à quel moment ça s'est décidé de séparer les textes comme ça. Là.
Mais sinon, pour en dire plus sur les points que tu avais amenés sur le septième jour, une analyse intéressante que j'avais déjà vue du septième jour. Ouais, ça venait de Jean Scott Erigène, un moine irlandais, qui est tombé dans plein de controverses et d'hérésies plus tard. Mais il avait écrit des choses intéressantes sur la Genèse en général, surtout Genèse 1, puis il reliait le septième jour à toutes les fois où Dieu regarde ce qu'il a fait, puis voyait que c'était bon. Il voyait le septième jour en particulier comme le jour où c'est. En plus, Dieu bénit le septième jour et le sanctifie, etc. Ça semble être lié au fait d'être un jour où la création retourne à Dieu. Donc là, c'est pas comme Dieu qui construit comme il fait à chaque jour, mais ça ressemble plus aux aspects à chaque jour quand Dieu fait juste regarder puis il voit que la création était bonne. Là, c'est comme la création qui, elle, regarde vers une certaine façon, on peut dire. C'est comme c'est Dieu qui voit la création, puis la création est bonne pendant le septième jour, puis il laisse cette place-là. Puis sinon, j'aime ce que tu dis sur la marge aussi, puis ça va aider à comprendre plein d'autres choses qui vont arriver dans la Bible plus tard. Surtout dans l'Ancien Testament, il y en a plein de symbolisme de la marge puis du septième jour, là. Ça va expliquer plein de lois qu'on n'est pas nécessairement capable de comprendre aujourd'hui. Pourquoi fallait que les Juifs laissent les
Les coins.
restants de leur champ pas cueillis, pourquoi ils devaient laisser comme des cordes qui pendouillaient de certaines façons sur leurs vêtements, etc. Il y avait comme cette conscience-là que si, disons, dans ton histoire fondamentale, tu laisses une marge le septième jour, puis si dans les choses que tu fais, comme ton chant, tes habits, etc., tu laisses une marge, mais après, tu vas être plus à l'aise avec le fait de laisser des marges comme partout dans ta vie qui ont la bonne balance. Tu veux pas qu'il y ait trop de marge, tu veux pas qu'il y ait pas assez de marge, tu veux avoir la bonne balance. Fait que en mettant ça dans le cycle de création que tu connais, dans des rituels que tu fais, ben, tu es capable de gérer cette marge-là de meilleure façon dans ta vie.
Oui, ça. Puis, tu sais, c'est pour ça, ce qui est difficile avec le symbolisme du septième jour, c'est que c'est un symbolisme qui est très englobant. Donc, tu sais, c'est pas seulement que c'est l'idée de la marge, juste la marge, c'est comme l'idée un peu de dire que ce qui est de plus, ce qui déborde, on pourrait dire, du travail, c'est offert à Dieu. C'est une façon de le comprendre. C'est comme si. Fait que là, l'idée de la marge ou de ce qui est extra, puis qui pourrait être vu comme un résidu ou quoi que ce soit, bien en fait, ça devient comme une couronne, ça devient comme quelque chose qui en fait est offert à Dieu, puis devient sacré dans ce sens-là. C'est dangereux, c'est toujours un peu dangereux de parler de ça parce que il ne faut pas confondre les deux, là, il ne faut pas confondre le résidu avec la couronne, mais on peut comprendre comment ça marche. Je veux dire, si tu penses juste au niveau pratique, c'est-à-dire. On mange, on fait nos choses, on a besoin de vivre, puis là, on a des choses qui restent à la fin. Puis là, cette chose-là, ce qui reste, c'est ça qu'on va utiliser pour, je sais pas, construire l'église du village, c'est ça qu'on va utiliser pour. C'est ça qui est comme offert à Dieu, ce qui est en dehors ce qui est en dehors de ce qu'on a besoin pour travailler, on pourrait dire. Fait que c'est ça la C'est un des aspects, c'est comme ça a rapport avec le premier puis le dernier, tu sais, ça a tout rapport avec cette question-là. Dans le symbolisme chrétien, surtout dans Saint-Maxime, mais tu sais, dans le symbolisme chrétien en général, on met l'emphase sur le huitième jour, tu sais, l'idée de qu'on célèbre le dimanche, en fait. Puis je pense que c'est ça que le huitième jour semble représenter. Il semble représenter la façon dont la mort se transforme en vie, la façon dont la fin devient le début, t'sais, la façon dont ce qui est comme extra est offert. C'est pour ça aussi que le huitième jour, c'était le jour de la circoncision. T'sais, fait que là, le huitième jour, c'était le jour où t'sais, la peau externe, ou ce qui est comme extra de chair sur le membre masculin, est comme enlevé. Mais d'une certaine façon, c'est ça qui offrait l'enfant, t'sais, à Dieu. Fait qu'il y a quelque chose de comme une rectification, t'sais, de quelque chose de ce qui est à l'extérieur. Cette rectification-là, ben c'est une image de la résurrection aussi, là. Mais c'est un symbolisme qui est vraiment difficile parce que il est tellement englobant que, t'sais, on commence à se perdre. Même là, je sens que je vais commencer à perdre les gens, là, t'sais, en faisant des associations comme ça, là. Mais c'est sûr que c'est un symbolisme qui est aussi très important.
Ouais, surtout quand tu arrives à un symbolisme qui a rapport à des nombres puis à des structures plus complexes, je trouve que c'est vraiment dur à faire sous forme de podcast. La seule fois où j'ai trouvé des gens qui expliquaient bien ce genre d'affaires-là, c'était vraiment à l'écrit, là. Entre autres, notre ami Cormac, qui est l'éditeur du blog en anglais, il écrit des super articles où il utilise beaucoup le symbolisme de 5 et de 8. Puis pour que ça fonctionne et que ce soit intelligible, il utilise beaucoup, disons, de l'indentation dans son texte, puis tu vois comme clairement les structures pratiquement géométriques ou iconographiques qu'il utilise pour découper des textes. Mais à l'oral, bonne chance
Ouais,
de faire ça.
c'est difficile en effet, ouais.
C'est bon, je pense qu'on pourra enchaîner sur le récit de création dans Genèse 2 qui arrive après le septième
Ouais.
jour.
Ben, dernière chose qu'on peut dire avec le
Ouais.
septième jour, c'est plus aussi toujours de saisir que, t'sais, que pour que la multiplicité existe, il faut qu'il y ait quelque chose qui sépare, t'sais. Puis l'idée de quelque chose de sacré, t'sais, c'est ça aussi, c'est quelque chose qui est comme mis à part, qui est séparé. Et donc, toutes ces idées-là, comme le jubilé ou ces moments-là où il y a comme la mort, où les choses retournent à leur point, avant la création. Tu sais, comme on pourrait même dire d'une façon étrange que le déluge serait relié avec le sabbat, tu sais, comme c'était la fin du cycle, puis là, tu as comme un déluge, puis là, ce déluge-là, il transporte quelque chose qui, à la fin, et comme devient le nouveau début, tu sais, pour le prochain cycle, qui s'assemble, que tout ça, c'est un symbolisme qui est absolument nécessaire pour que les choses existent, là. Il faut qu'il y ait cette espèce d'espace vague ou d'espace non nommé entre deux identités, là.
Parfait. Donc, je pense qu'on peut enchaîner sur la création maintenant. Puis, ce qui saute aux yeux tout de suite, c'est que c'est pas le même ordre. C'est ça qui est peut-être le plus intéressant, puis il y a beaucoup à discuter là-dessus. Dans Genèse 1, on se rappellera que Dieu commence par les extrêmes du ciel et de la terre, puis il construit comme le monde couche par couche jusqu'à temps que ça culmine au milieu dans l'homme, l'homme qui vient récapituler tout ce qui est fait avant. Mais maintenant, dans Genèse 2, il n'y a pas grand-chose avant que l'homme arrive.
Là, c'est comme le contraire, en fait. Il y a la terre et le ciel, puis là, Dieu fait l'homme, puis là, après ça, il y a comme les autres choses qui découlent de la création de l'homme.
Puis, si je pense pour être exact, ça dit. Oh, non, c'est ça. Il y avait pas d'herbe, il n'y avait pas de buisson, parce que Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir. Fait qu'il y a comme rien au sol, il n'y a pas de pluie non plus encore. La seule chose que ça dit qu'il y avait avant la création de l'homme, c'est une source montait de la terre et irriguait toute la surface du sol. Puis je pense que ça ne dit pas ça pour rien, parce que c'est intéressant. Après que l'homme soit arrivé, là, tu as des rivières qui descendent. Fait que, on dirait que. Donc, l'homme vient après ça permettre qu'il n'y ait pas juste le mouvement de l'eau du bas vers le haut, là, comment c'est écrit déjà? Une source qui montait de la terre. Là. Après l'homme, tu as aussi le mouvement descendant d'une
Ouais.
rivière qui descend.
Puis t'as aussi, t'sais, de base, tu peux vraiment comprendre que l'image qu'on a, c'est-à-dire que il y a de l'eau qui sort de la terre, puis là, la terre est comme couverte d'eau, puis là, tu as le ciel. Fait que tu as la même image qu'au début de Genèse 1, c'est-à-dire que tu as le ciel, puis là, tu as la terre, puis la terre, elle est eau, t'sais. Dans ce cas-ci, il y a aussi le côté terre plus mystérieux. On ne sait pas exactement c'est quoi, là, mais tu as comme la terre, mais cette terre-là, de ça, il y a de l'eau, puis il y a le ciel. Fait que tu as la même situation, puis la différence, ce qui est fascinant de penser, c'est que la différence, c'est comme si Dieu, il fait monter. Moi, de la façon que je l'imagine, c'est vraiment, c'est pour le comprendre, c'est que Dieu, il prend la poussière qui est comme en dessous de l'eau, parce que là, tu as comme l'eau, puis là, Dieu, il prend la poussière, puis là, il la forme en quelque chose, puis là, ça fait que l'air peut rentrer dedans, là, ça fait que le souffle peut rentrer dans la forme, ça devient un homme. Puis ça devient comme un peu aussi une montagne, tu sais, tu peux l'imaginer comme ça, c'est comme un peu un genre de monticule au-dessus de la surface, là. Puis que ça devient une image après qui est répétée dans l'idée du jardin, tu sais, parce que pour que l'idée du jardin fonctionne, même si c'est pas dit que c'est une montagne, clairement, il faut que ça soit une montagne, parce qu'il y a comme une source, puis il y a quatre rivières. Faut que les rivières aillent dans des directions différentes, faut que ça soit comme une montagne. C'est ça que je vois, que c'est vraiment, mais c'est vraiment intéressant, c'est vraiment important de comprendre que ça décrit la même réalité ontologique, mais juste de deux points de vue différents. C'est de comprendre que l'homme, il est la culmination, c'est ça qui fait que la création culmine vers l'homme, mais de façon phénoménologique puis active, on pourrait dire. L'homme, il est le premier. Dans ton expérience, c'est ça. T'sais, dans ton expérience, toi, tu es là, puis là, tout d'un coup, tu commences à interagir avec le monde. T'sais, tu commences à voir de quoi le monde est fait. Tu commences à nommer les choses, puis à interagir avec. Fait que pour moi, ça peut sembler étrange pour les gens, mais pour moi, c'est juste deux versions de la même histoire pour nous aider à saisir quelque chose qui n'est pas vraiment totalement saisissable ou qu'on ne peut pas juste décrire de façon simple comme ça, là. Une structure ontologique, c'est pas. C'est quelque chose qu'on donne des exemples de, t'sais, on la décrit pas directement, on pourrait dire.
Ouais, il y a beaucoup à dire là, pour continuer là-dessus sur la façon dont disons, les choses vont culminer dans l'homme, puis les choses vont venir à exister à travers l'homme. Un parallèle que je trouve intéressant dans le texte, c'est que, comme tu as dit, Dieu vient lever de la poussière, faire un genre de montagne, ensuite souffler dedans, puis là, ça devient Adam, ça devient l'homme. Donc, Dieu prend comme de la terre, il amonte, puis il souffle. Mais après ça, quand Dieu va créer les animaux, Là, ça, dans le texte, ça dit que. Je vais retrouver. Ok, ça vient un peu plus loin. Ok. Avec de la terre, le Seigneur Dieu modela toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les amena vers l'homme pour voir quel nom il leur donnerait. Fait que là, tu sais, c'est pas Dieu qui souffle dans les animaux directement, là. Ça dit comme, dans le fond, Dieu il prend la terre, comme pour l'homme, sauf que là, le souffle, c'est la parole de l'homme. C'est
Ah oui,
l'homme qui va
c'est
donner le nom des animaux. Fait qu'il y a un parallèle direct entre comme, la création de l'homme et la création des animaux à travers l'homme.
ça. Oui, c'est vraiment puissant, là. Tu sais, c'est là que tu vois jusqu'à quel point l'être humain il est vraiment comme un agent qui aide Dieu dans la création, là. Tu sais, dans cette version-là, comme tu dis, c'est carrément la façon que Dieu agit avec l'homme. L'homme, maintenant, agit avec les bêtes que Dieu a comme juste a formé de la terre. Puis l'homme, il a fait comme donner la dernière injection de sens, là, tu sais, qui fait comme les faire apparaître là, totalement dans le monde. C'est ouais, c'est assez puissant.
Puis, c'est intéressant. Tantôt, tu disais que c'est toi, tu vois vraiment ça comme deux façons d'écrire la même histoire, mais pour la plupart des gens, c'est vraiment très différent comme histoire, là. Puis, c'est intéressant de continuer à creuser pourquoi, je pense. À mon avis, c'est un peu une conséquence de la chute, là, que maintenant, on a de la misère à réconcilier ces deux perspectives-là, où je vois vraiment Genèse 1 comme ce qui est plus la métaphysique classique ou presque une approche scientifique du monde où on sépare des concepts de la matière, puis on regarde comment la matière, les concepts interagissent très hiérarchiquement, de façon systématique. Puis l'homme arrive, disons, chronologiquement à la fin, puis on peut voir que l'homme vient récapituler tout le reste, mais reste que c'est facile de donner, disons, une primauté en termes de causalité à ce qui est en dehors de l'homme, disons au ciel et à la terre, puis à voir que l'homme est plus une conséquence de tout ça. Puis je pense naïvement, c'est comme ça que beaucoup, beaucoup de monde vont voir les choses aujourd'hui, là, avec la modernité, puis une approche plus scientifique des choses. Puis c'est même les Grecs, là, si je pense, je sais pas, Aristote semblait voir peut-être le monde comme ça aussi, versus l'approche de Genèse 2, où là, c'est vraiment plus phénoménologique, où on explique comment les choses viennent exister à travers l'homme. Puis je trouve. C'est le fun de donner des exemples pour les gens qui ne trouvent pas ça naturel, là. Mais nommer les animaux, c'est déjà un bon exemple, là, parce qu'on a vraiment changé les animaux en les nommant. Mettons, un chien, c'est pas un loup. Puis c'est grâce à nous que les chiens, ça existe, puis les chiens font des choses que les loups sont pas capables ontologiquement de faire juste par eux-mêmes. Puis
Ouais, ça.
si nous, on prend des chiens, on les nomme, on les élève, ils peuvent faire des choses vraiment complexes, ils peuvent aider les humains avec leur travail, ils peuvent aider les aveugles, peu importe, ils peuvent rentrer dans des relations familiales, d'amour plus complexes, que des chiens par eux-mêmes sont pas capables d'avoir, sinon c'est des loups. Puis c'est nous, parce qu'on a nommé les loups, puis on a vu le potentiel qu'il y avait chez eux, qu'on a permis cette évolution-là chez les animaux.
Ouais, ça. Puis même, t'sais, même juste la magie de nommer, t'sais. Puis c'est important pour vraiment le comprendre que c'est nommer, c'est pas un acte arbitraire, là, t'sais, que le nommer, c'est s'il y a une relation entre l'expérience d'un phénomène qui se manifeste comme ayant une cohérence, t'sais, puis le fait de le reconnaître, le nommer. Mais t'sais, l'idée que ça, c'est ensuite totalement, c'est totalement comme on pourrait dire genre froid, t'sais, à l'extérieur de l'expérience humaine. Même le nommer des animaux, c'est là que tu le vois. T'sais. Pourquoi qu'on a plein d'espèces de chiens. T'sais, pourquoi qu'il y a plein de différentes espèces de chiens, mais si les deux chiens de deux espèces, ils ont un chien ensemble, là, on dit, ah, c'est un mélange de ces deux espèces-là. Ou on dit, en anglais, t'sais, on dit, it's a mutt. T'sais, que c'est un chien qui n'a pas d'identité, en fait. T'sais, mais, fait que c'est intéressant de voir, t'sais, parce qu'en fait, à la limite, tous les chiens qui existent sont différents les uns des autres. Il n'y a pas un chien qui est pareil. Donc, chaque chien pourrait être sa catégorie, t'sais. Chaque chien pourrait être sa propre catégorie de chien, mais ça, c'est pas tenable au niveau humain. Donc, on va les grouper dans des catégories qui sont cohérentes selon les qualités que les chiens présentent. Puis ces qualités-là, ils sont totalement, ça, comme je dis, ils sont pas arbitraires ou t'sais, ils sont totalement cohérents, mais c'est quand même important de remarquer que c'est l'être humain qui fait ça. L'être humain, il est en train de catégoriser le monde dans son selon les qualités qui se présentent à lui comme étant ayant assez de différences pour les nommer, tu sais. Puis que, tu sais, on peut le voir pour des chiens parce que c'est facile, parce qu'on dit, bien, tous ces chiens-là peuvent tous avoir des bébés ensemble. C'est pas deux races, tu sais, c'est pas complètement
C'est pas
d'autres
des espèces
animaux.
complètement
C'est ça,
différentes,
c'est
là,
pas comme
c'est.
des espèces complètement différentes. C'est carrément des animaux qui peuvent se mélanger, mais on a quand même fait des catégories selon les qualités qu'ils présentent, puis selon les généalogies et tout ça. Fait que c'est pour ça que je dis que c'est l'espèce de magie de nommer des choses est importante à comprendre, est importante à saisir parce que ça peut aussi être manipulé dans notre expérience. T'sais, les médias, ils le font tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent la caméra sur quelque chose, puis là, ils disent ça. Puis là, toi, tu n'avais pas remarqué ça avant. C'est pas que ça n'avait pas un potentiel d'exister, mais t'sais, tu n'avais pas remarqué. Puis là, tout d'un coup, on met la caméra dessus, puis on dit ça, puis on répète ça. Puis tout d'un coup, la chose, elle commence à prendre forme, puis elle commence à exister de façon. Puis là, tout d'un coup, tout le monde en parle, puis là, tout le monde est préoccupé par ça, puis tout le monde est comme. Puis là, ça, tout d'un coup, ça devient hyper important, puis fait que c'est vraiment. C'est très important de voir comment l'être humain est capable de faire ça, puis comment ça peut être manipulé aussi, pour éviter, pour à la fois le faire le mieux possible, avec le plus d'authenticité ontologique possible, puis de faire attention aussi à pas. Comment je pourrais dire, à pas le tordre, cette capacité-là qu'on a juste pour nos propres fins, là.
Il y a des exemples où c'est plus positif, là, disons, où des gens réussissent à nommer certaines structures qui, d'une certaine façon, étaient déjà présentes, mais une fois qu'ils étaient nommés, ils allaient comme vraiment être réalisés et avoir un pouvoir causal qu'il n'y avait pas avant. Fait que, plein de gens ont eu ce genre d'expérience-là en lisant un livre ou en écoutant un film qui montrait des vraies structures. Peut-être l'exemple classique, c'est Crime, échantiment de Dostoïevski. Il y a plein de monde qui, en lisant ça, ont vu des patterns moraux pour la première fois dans leur vie qu'ils n'avaient pas vu avant, parce que Dostoïevski avait réussi à bien les nommer. Puis après, ça changeait la façon dont les lecteurs voyaient leur passé, puis ça changeait leur futur. Puis d'une certaine façon, on peut vraiment voir que Dostoïevski venait un peu créer l'histoire de ces personnes-là parce qu'ils réorganisaient toutes les façons dont ces personnes-là voyaient leur passé. C'est arrivé à plein de monde dans nos cercles. Ça peut être d'autres livres, d'autres films, peu importe, mais cette expérience-là, que quelqu'un peut nommer des vraies structures chez nous, puis que ça vient tout recadrer notre existence, y compris notre passé, c'est une expérience qu'on peut tous avoir.
Puis c'est important aussi d'être conscient de l'effet de nommer quelque chose, parce que quand on nomme quelque chose, on lui donne, on fait comme déléguer à cette chose-là une sorte de pouvoir d'exister. Un genre de pouvoir ontologique, tu sais. Et donc, encore une fois, à la fois, ça peut être quelque chose de vraiment incroyable, tu sais, puis ça peut être quelque chose de vraiment dangereux, même quand c'est vrai, tu sais, même quand c'est des choses qui ne sont pas nécessairement manipulées, là. Tu sais, un exemple classique que les gens commencent à réaliser encore d'ailleurs aujourd'hui, là, tu sais, c'est le problème de diagnostic, c'est le problème de diagnostiquer une maladie, tu sais, ou de diagnostiquer surtout une maladie mentale. Tu sais, que quand tu donnes un diagnostic de maladie mentale, là, tu fais vivre la bête, là. Tu sais, la bête, tout d'un coup, elle devient vivante. Puis des fois, c'est important de le faire, parce que si tu veux la tuer, il faut qu'elle sorte de son trou, tu sais. C'est comme si tu veux tuer le dragon, là, faut que tu le nommes, là. Sors de ton trou, parce que là, on t'attend. Mais si tu fais sortir le dragon de son trou, puis t'es pas prête à le tuer ou t'as pas la capacité, t'sais, des fois c'est mieux qu'il reste dans son trou, t'sais. Fait que on le voit que, t'sais, y a même des études de plus en plus maintenant qui commencent à expliquer que quand on met trop l'emphase sur notre propre santé mentale, par exemple, t'sais, les processus de thérapie et tout, que ça peut en fait être faire le contraire de ce qu'on pense. Parce que là, tu es totalement préoccupé par un problème, que le problème, il fait juste grossir, grossir, grossir dans ta perspective. Puis il va, comme un parasite, là, il va prendre tout l'espace de ton attention. Puis il va en fait, tu vas faire plus de dommages que si, tu sais, je dis pas qu'il faut ignorer les problèmes et tout ça, mais il faut juste être conscient de ce que ça fait quand on en fait sortir un, tu sais. Tout le monde le sait d'ailleurs, tu sais, si vous êtes dans des relations, vous le savez, c'est comme il y a un truc que ton conjoint fait qui peut-être un peu fatigant, mais tu ne dis pas parce que c'est pas si grave. Mais là, si tu le dis, là, oh, là, tout d'un coup, ça l'apparaît, là. T'sais. Puis là, j'espère que tu es prêt parce que tout d'un coup, là, ça devient un vrai truc, là. T'sais. Puis ça, des fois, ça va avoir des effets néfastes aussi, là.
Ça me fait penser, je sais pas si t'es entendu parler du dernier livre de Jonathan Haidt. Comment ça s'appelle déjà? The Anxious Generation. C'est vraiment intéressant, tu trouverais ça sûrement bon. C'est une bonne explication de problèmes que les jeunes gars et les jeunes filles ont aujourd'hui, de problèmes de santé mentale que tu vois monter depuis, pour les gars, là, depuis les années comme 80 à peu près, puis pour les filles que tu vois surtout avec les médias sociaux depuis 2012. Mais dans un des passages du livre, il parle de ce qui s'appelle des épidémies psychogéniques ou sociogéniques, où c'est exactement ce que tu dis, là, où. Même pas besoin d'être des experts, là. Ça peut être, mettons, quelqu'un sur TikTok qui a. Un exemple qu'il donnait, je pense que c'est quelqu'un sur TikTok qui avait le syndrome de Tourette, où, tu sais, c'est des gens. Il y a comme, en fait, une démographie très spécifique de gens qui ont ce syndrome-là d'habitude, là, je ne me rappelle pas c'est quoi, mais. Bref, cette personne-là avait le syndrome de la Tourette très spécifique, mais c'était normal selon comme les standards psychiatriques habituels. Mais il faisait des vidéos de TikTok, puis il parlait de tout ça. Puis là, après ça, il y a eu une épidémie
De Tourette.
psycho. Ouais, une épidémie de Tourette sur la planète. Puis là, c'était intéressant parce qu'il y avait du monde qui n'était pas du tout dans la démographie normale pour ça. C'était comme du
Ouais.
monde qui sortait de partout qui avait le syndrome de Tourette. Puis. C'était vrai, comme s'il ne pouvait pas juste être guéri demain parce qu'il se faisait dire que c'était de la bullshit, là. C'est comme les gens y avaient vraiment
Il avait été
développé
convaincu
cette
pour de
maladie-là.
vrai, c'est ça.
Ouais,
C'était
c'est
pas,
ça.
même si c'était généré de cette façon-là, ça veut pas dire que c'était, ça n'arrivait pas. C'était pas de
ça.
leur faute. T'sais, ils étaient pas coupables de ça, là. Ouais.
C'est
Non,
ça.
je comprends, là.
C'est
Tu sais, mais c'est super important. Mais en tout cas, c'est vraiment fascinant parce que c'est là que tu peux comprendre, tu sais, les gens qui comprennent pas les histoires, tu sais, au niveau de la, c'est quoi la magie, tu sais, ou c'est quoi un sorcier, tu sais. Un sorcier, c'est ça. Un sorcier, c'est quelqu'un qui est capable de faire exister les choses, faire apparaître des choses, tu sais. C'est pas que les choses n'existent pas, tu sais, qui sont pas déjà là de façon potentielle, mais qui sont capables de les, comme, les faire manifester dans le monde. Puis là, tout d'un coup, l'effet de cette manifestation-là va, t'sais, va avoir des ramifications sur tout le monde. T'sais. Puis ça, c'est un exemple vraiment simple. C'est-à-dire, quelque chose, tout d'un coup, se fait t'sais, par un sort, là, un genre de sort. Quelqu'un qui fait un geste magique, là, il met ça devant tout le monde, ça l'apparaît. Puis là, tout d'un coup, oh, ça l'infecte la population. Là. Puis tout d'un coup, tout le monde est anorexique, là, puis tout le monde est TDAH, puis tout le monde. T'sais, je veux dire, est-ce que tu connais
Ouais.
quelqu'un qui avait pas une genre d'obsession? Tout le monde maintenant a leur obsession puis leur truc de mal.
C'est intéressant. Je trouve proche de l'humain, il y a vraiment beaucoup d'exemples de ça, là, de la façon dont on construit la réalité, puis de façon qui n'est pas complètement idiosyncratique, ou c'est pas juste comme un truc psychologique individuel, là. Ça semble être des patterns qui existent et qui sont un peu indépendants de nous, d'une certaine façon. Mais là où je pense plus de gens vont comme accrocher à cette perspective-là phénoménologique, c'est qu'on l'applique à des choses plus loin de l'expérience humaine, donc des choses qui sont plus proches de la matière fondamentale. Mais même là, c'est intéressant, les débats ont beaucoup changé, là, je trouve, depuis 10-15 ans, là. Maintenant, il y a du monde, mettons, comme Ian McGilchrist ou Bernard Lukacs, des mondes, tu sais, qui sont plus établis dans la communauté scientifique qui vont défendre des visions du monde où ils vont expliquer des choses au niveau de la physique en fonction de l'esprit humain, puis pas l'inverse. Fait que, il y a. C'est. On n'a pas besoin, je pense, d'aller comme si loin qu'eux pour tenir la vision qu'on veut dans Genèse 2. Dans le texte en tant que tel, ça parle des animaux qui sont créés à travers l'humain. Ça va pas dire. Il existait déjà des choses avant l'homme aussi, là, d'une certaine façon. On n'a pas besoin de tout réduire à du potentiel pur avant l'être humain. Ça semble pas être nécessaire dans le texte. Mais c'est intéressant de voir que cette perspective-là, elle devient plus naturelle aujourd'hui qu'elle était, mettons, juste il y a 10 ans.
Oui, c'est ça, que c'est plus facile de comprendre c'est quoi exactement qui se passe. Tu sais, puis tu sais, dans. Fait que tu sais, l'image est super belle, tu sais, dans ce texte-là, parce que là, tu as l'eau, le Dieu, il prend de la poussière, et il la monte, tu sais, il la forme, puis là, il met l'air dedans, ça devient l'homme. Après ça, il fait les animaux de la même façon, puis là, l'homme, lui, il est en haut, puis là, il participe à leur existence. Puis là, ultimement, Dieu, il fait une montagne. Ça devient une version comme cosmique où la source, tu pourrais imaginer que la source qui faisait que l'eau était que la terre était couverte d'eau, ben là, tout d'un coup, cette source-là, elle monte, tu sais, puis là, elle descend comme des rivières qui vont donner de l'eau à la terre. Puis l'être humain, il est placé sur la montagne. Puis ça répète la même encore, comme dans Genèse 1, ça répète la structure, tu sais, à chaque étape. Bien là, ça fait la même chose, ça répète la même structure à chaque étape. Puis ça montre ce qu'on pourrait dire la fonction de l'homme, tu sais, ou l'homme comme un être intelligent qui est à l'image de Dieu, qui est fait à l'image de Dieu, qui va comme se répéter, c'est quoi ça, tu sais, comme la nature. L'espèce de monde comme ça, quand il est monté, puis l'homme est dedans, mais ça devient un jardin. Ça organise le monde de façon intelligente, là.
Ouais, on dirait que je sais pas complètement si ça fonctionne, mais j'ai l'impression que peut-être dans Genèse 1, on voit plus l'homme comme un genre de monarque, quelqu'un qui arrive à la fin de la création, puis il règne sur la création. Mais c'est pas clair exactement qu'est-ce qu'il fait. Dans Genèse 2, par exemple, là, tu vois le rôle, disons, actif que l'homme fait quand il règne.
Ouais,
Puis,
mais c'est fou de penser, c'est vraiment à l'envers de Genèse 1. Parce que là, il fait l'homme, après ça, il fait les animaux, puis après ça, il fait les plantes.
En fait, il
C'est
fait les
complètement
plantes,
à l'envers.
il fait quand même les plantes avant les animaux, là.
Où ça, il dit ça dit un
Dans
texte?
deux? Ouais, dans Genèse 2, ça dit quand même. Parce qu'il fait. Il modèle l'homme.
Oui.
Ensuite, il plante le jardin en
Ah, le
Éden à
jardin, il est
l'Orient.
là avant. OK,
C'est
désolé.
ça. C'est ça. Puis après, il fait pousser
Animaux.
il fait pousser les plantes. Puis après ça décrit les quatre rivières. Puis après ça. Ça dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, puis il crée les animaux.
Ouais.
Fait qu'il y a quand
Ça,
même la végétation avant, les
c'est
animaux.
cette partie-là, c'est vraiment fascinant, tu sais, c'est-à-dire, tu sais, c'est vraiment fascinant de penser que la façon que la création des animaux est faite, c'est comme si Dieu, il veut créer. C'est comme si ça a rapport avec trouver une compagne pour Adam. C'est Dieu crée les animaux, puis les animaux se présentent à Adam, puis là, c'est comme la question, c'est est-ce qu'il va les reconnaître comme quelque chose qui est comme son compagnon, t'sais? Puis là, à chaque fois, c'est non, t'sais? Ou il nomme, puis il voit que non, en fait. T'sais. Tu peux t'imaginer que le chien, il était plus proche. Il était comme, ah, moi, je pourrais. Tu sais, c'est comme, je suis quasiment comme toi. Tu sais, ou genre, tu sais, des enfants de même. Mais, ouais, ça, mais c'est assez intéressant. Puis après, Dieu, il décide qu'il doit prendre de l'homme lui-même pour faire la femme. Tu sais.
Ouais, puis tu sais, il y a un genre de sabbat là-dedans parce que l'homme va être endormi. Puis ça c'est mystérieux. Je comprends pas exactement qu'est-ce qu'il y a là-dedans, c'est quoi le rapport avec ce qui se passait avant. Parce qu'on. Ça a peut-être rapport avec le fait qu'on a justement le sabbat dans Genèse 2 aussi, là. Je ne sais pas s'il y a un genre de
Peut-être, hein?
retour à tout ça.
C'est vrai que ça se peut que c'est quelque chose par rapport à ça. C'est possible, hein? Parce que le fait que l'être humain il est endormi, c'est vraiment particulier. Tu sais, Saint Grégoire de Nice, tu vois qu'il comprend vraiment le symbolisme, là. Tu sais, lui, il comprend vraiment le symbolisme. Fait que tu vois qu'il est dérangé par cette image-là. Tu sais. Fait qu'il dit, ben, je sais pas s'il était dérangé, mais il dit que l'être humain, Dieu a séparé l'homme en homme et femme en prévision de la chute. Puis, tu sais, ça semble vraiment bizarre. Tu te dis, ben là, voyons donc, tu sais, c'est-à-dire que là, il a séparé l'être humain en prison de la chute, mais, tu sais, lui, c'est parce qu'il voit que l'être humain, il s'endort. Fait qu'il comprend, tu sais, il voit que dans toute la Bible, le symbolisme de dormir, c'est le symbolisme de mourir. Fait qu'il se dit, ben là, c'est comme une petite mort avant la chute. Fait que ça doit être une sorte de micro-réalité qui va comme. Qui prédit au moins ou qui est comme un petit écho de ce qui vient plus tard, qui est la chute finalement. T'sais. Puis la séparation, t'sais, parce que la séparation, on pourrait dire que l'être humain, t'sais, si tu prends les deux histoires ensemble, t'sais, Grégoire, il aurait vu que ça dit que l'homme, Dieu créa l'homme mâle-femelle. Puis là, quand la chute arrive, ben Adam et Ève se séparent, ils se chicanent, ils se blâment, ils sont comme séparés de façon radicale. Puis imagine, tu peux voir pourquoi on dirait, OK, mais quand Dieu sépare l'homme masculin, féminin en hommes et femmes, ben là, tout d'un coup, c'est comme une petite image de ce qui s'en vient plus tard. Là, mais c'est comme tu dis, c'est mystérieux parce que tu sais, c'est dur à totalement cadrer, là.
C'est pas simple. J'ai envie quasiment de faire un dessin comme Cormac Frey, là, pour dessiner c'est quoi la structure, parce que tu peux voir quand même beaucoup un parallèle en Genèse 1-2 dans ce qui est créé, là. Comme on a dit, au début, t'as comme le ciel, la terre, c'est comme surtout de l'eau. Ensuite, il y a l'homme, mais après l'homme, on semble retourner, quand on va créer les, quand on va créer les plantes après, ça semble rappeler la quatrième, non, cinquième journée. En fait, non, mon parallèle ne marche pas. J'avais l'impression qu'il y a comme peut-être un parallèle comme assez exact à faire entre les journées dans Genèse 1, puis les différentes étapes de Genèse 2, puis qu'à la fin de Genèse 1, t'as le sabbat, la septième journée, puis qu'à la fin de Genèse 2, t'as l'homme qui dort, puis ensuite la femme qui arrive, là, comme si t'avais comme création dans Genèse 1 qui est analogue à Genèse 2, qui est analogue à la création de la femme à la fin de Genèse 2, peut-être. Mais je pense qu'il va falloir que je le dessine au
Il
complet
faudrait que tu
pour voir
dessines
si ça
qu'est-ce que c'est
fonctionne.
là. Je pense que de base, la structure de base, l'intuition est pas mauvaise, mais c'est de savoir jusqu'à quel point ça colle vraiment. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. C'est vraiment fascinant. Parce que là aussi, quand Dieu sépare l'homme en mes femmes, ben là, il répète. C'est comme une petite création aussi, parce que là, il répète le ciel et la terre qui étaient là au début de Genèse 1 et au début de Genèse 2, comme une genre de microstructure. Puis là, Dieu dit, je pense que c'est là, ça va être à peu près là que Dieu dit, tu sais, d'être fécond puis de remplir la terre, là, tu sais.
Je pense que d'être fécond, c'est plus dans Genèse 1.
C'est dans Genèse 1 qu'il dit ça,
Dans
hein?
Genèse 2, il dit, à cause de cela, l'homme quittera son père et
Qui
sa
sera ça?
mère, ouais, il s'attachera à sa femme et tous les deux ne feront plus qu'un. Tous les deux, l'homme et sa femme étaient nus et ils n'en éprouvaient aucune honte l'un devant l'autre.
Ouais.
Donc la fécondité, ça en parle plus dans Genèse 1, en fait.
Ouais, c'est ça. En effet.
Ce
En
qui est
effet.
mystérieux. Ouais.
Ouais, mais les pères d'Église aussi, ils sont intéressants. Je me souviens plus c'est quel dans les pères qui dit ça, mais ils disent que quand ça dit dans Genèse 1 qu'il leur dit d'être fécond et de se multiplier, que c'est pas d'avoir plein de bébés, en fait, c'est-à-dire de multiplier. Comme Adam nomme les animaux, ça serait ça, multiplier Adam dans le monde, c'est-à-dire de continuer le geste de création, puis ordonner le monde de façon de selon l'image de Dieu. Puis qu'en fait, tu sais, parce que dans le texte, il n'y a pas de relation entre Adam et Ève avant la chute. Puis c'est dans, tu sais, il y a les gens vont dire, ah ouais, mais tu sais, c'est pas la chute qui fait que les gens y ont des relations. Whatever. Dans le texte, c'est comme ça, l'ordre. L'ordre, c'est, ça dit qu'Adam et Ève, ils quittent le jardin, puis tout de suite après, ça dit Adam a connu sa femme. T'sais. Fait qu'il y a clairement une relation entre la reproduction de l'homme dans des bébés, là, puis la chute, là. T'sais, même si ça ne veut pas dire que l'acte sexuel ou que l'union entre l'homme et la femme au niveau sexuel, que c'est immoral ou que c'est whatever, mais c'est quand même. Il y a un lien, tu peux le voir comme une sorte de descente ontologique là, qui commence au début puis qui se multiplie en descendant. Puis c'est pour ça que je pense que Grégoire de Nyssa, il dit que l'être humain, il est séparé, que c'est comme un genre de prévision de la chute, puisque on voit que ça descend déjà, que ça descend vers la multiplicité.
Ouais, c'est vraiment intéressant parce que vu qu'on dirait dans Genèse 2, on parle plus de la séparation homme-femme, on se serait attendu à ce que ce soit plus là qui parle disons, de multiplication, là, de fécondité physique, mais c'est pas ça qu'ils font. Dans Genèse 2, c'est plus clair en fait que c'est disons, le travail liturgique que les humains font dans la création, parce que les mots, ça paraît pas en français, là, mais en hébreu, quand ça dit que Dieu place l'homme dans Éden pour le garder, le travailler. C'est les mêmes mots qui sont utilisés pour parler du travail que des Lévites font dans le temple. Fait que c'est un travail liturgique que l'homme fait dans le jardin. Ouais. Mais c'est bon, c'était très. Il y a tellement de choses dans Genèse 1, 2.
Non, mais ça finit jamais, là. C'est ça le problème. C'est que c'est comme, tu sais, tout d'un coup, tu commences à voir les structures puis les analogies, là, puis tu vois que ça fonctionne bien. T'sais. Une autre chose à mentionner, par exemple, c'est que il semblerait d'une certaine façon. Possiblement que l'idée qu'on a aussi du Fils de l'homme, tu sais, qui amène aussi à l'incarnation et tout, c'est que ça a le rapport avec les deux récits. Parce que tu sais, au premier siècle, certains rabbins disaient que la première création, tu sais, quand ça décrit que Dieu créa l'homme masculin et féminin au début, que ça, c'est comme, tu sais, que c'est pas exactement le même homme que dans le deuxième. Tu sais, je fais attention, là, tu sais, je peux pas aller dans l'hérésie, là, mais tu sais, c'est plus de comprendre un peu la structure, de penser que il y a comme un homme céleste, on pourrait dire, puis il y a comme un homme terrestre. Puis, tu sais, ils sont comme peut-être un, ils sont juste un à côté de l'autre. C'est le même, tu sais, dans le fond, c'est le même, mais il y en a un qui reflète l'aspect terrestre, puis il y en a un qui reflète l'aspect, il y en a un qui reflète l'aspect céleste, puis l'autre qui reflète l'aspect terrestre. Puis que, tu sais, que l'homme qui reflète l'aspect terrestre, ben, tu sais, il est comme séparé, tu sais, homme-femme, tandis que l'autre, il est comme ensemble, tu sais, un peu de façon d'y penser, là. Puis que ça pourrait avoir rapport avec l'idée du Fils de l'homme, tu sais, l'image du Fils de l'homme qui est au ciel, que ça a le rapport avec ça, là. Mais tu sais, comme je vous ferai attention, c'est plus une façon de penser à les différents aspects de l'homme, tu sais, c'est quoi son rôle, puis qu'est-ce qu'il fait dans le monde, là. Comment qu'il est comme un médiateur, puis en étant un médiateur, il doit nécessairement avoir un aspect de lui qui est plus relié à la terre, puis un aspect de lui qui est plus relié au ciel. Puis ça peut être un angle pour peut-être aussi comprendre les deux textes, là.
Ouais, j'avais déjà lu des textes à cet effet-là aussi, où comme si dans Genèse 1, peut-être on parle plus de nature humaine, comme Adam, l'homme avec un grand H,
Oui, c'est ça.
disons. Puis après ça, dans Genèse 2, disons peut-être plus personnel, spécifique avec un homme, une femme. Mais pour de vrai, dans Genèse 1, on parle de la nature de l'individu et de la femme, Adam, Ève, dans Genèse 2. Donc, c'est sont collés, comme tu dis, ultimement, sont la nature et l'individu. Mais pour continuer à parler des distinctions, puis aussi de s'en aller vers le Fils de l'homme, puis l'incarnation, j'avais envie de continuer à parler un peu plus comment Genèse 1 et Genèse 2 sont opposés, mais que ultimement on peut voir les deux qui sont résolus et récapitulés dans l'incarnation. Aujourd'hui, on ne fera pas Genèse 3, fait que ça ira un autre épisode où on pourra parler de cet aspect-là qui aide à comprendre aussi la récapitulation. Mais ce que j'ai envie de dire de plus, c'est que comme on commençait à dire, Genèse 1 puis Genèse 2, ces façons-là de voir les choses, disons, une qui est plus la cosmologie à la troisième personne de Genèse 1 versus plus la phénoménologie de Genèse 2 sont assez opposées dans notre culture. Puis dans la philosophie du dernier siècle, c'était très, très opposé, là. C'était même devenu pratiquement géographique où à peu près tout le monde dans l'univers anglo-saxon, là, disons le Royaume-Uni puis les États-Unis, Canada anglais aussi, c'était plus une vision comme Genèse 1 où on parle à la troisième personne d'habitude, puis l'homme arrive à la fin de la création, puis la perception humaine n'a pas un rôle si important que ça dans la création. On voit quand même que à la limite, on voit quand même que l'humain vient récapituler dans sa création, dans sa perception d'autres aspects de la création. Mais on est vraiment loin de ce qui se faisait en Europe continentale avec la France ou l'Allemagne, où là, c'était plus la phénoménologie qui gagnait. Puis les philosophes étaient souvent pas très préoccupés par les sciences, puis comment tu allais, disons, arriver à expliquer qu'on a une connaissance aussi solide des choses en physique, alors que c'est tellement loin de notre expérience phénoménologique. Les gens étaient plus contents en France puis en Allemagne d'expliquer comment les choses viennent exister à travers la conscience humaine. Fait qu'il y avait ce gros, quand même, chiasme-là entre l'Europe continentale puis le monde anglo-saxon. On peut peut-être voir quelque chose comme ça aussi qui est arrivé en théologie ou en Occident, c'était plus une façon de voir les choses comme Genèse 1, de métaphysique classique où Aristote prenait beaucoup de place. Puis en Orient, c'était plus commun de voir les choses comme dans Genèse 2 où les choses existent à travers la conscience humaine. Puis c'est chacun a ses risques, là. Disons, en Occident, ben, naturellement, ça peut faire des visions un peu détachées du monde. Puis à l'inverse, puis aussi des plus matérialistes comme dans tous les sens du terme, versus en Orient, des problèmes ou disons des risques qu'on voyait dans le monastisme, entre autres, c'était qu'il ne fallait pas devenir fou, il ne fallait pas tomber dans le préleste où on met tellement de poids sur la capacité humaine de sous-création qu'on finit par, disons, des fois voir ou invoquer des choses qu'on ne devrait pas. Fait qu'il y a quand même eu cette grosse séparation-là, historiquement, des deux perspectives. On dirait qu'ils commencent à plus se rapprocher aujourd'hui, surtout dans les 10 dernières années. On voit dans la culture populaire, ça ressent plus, mais j'avais envie d'expliquer aussi comment ces deux histoires-là, Genèse 1 puis Genèse 2, viennent à être comme refaites ou réunies aussi par l'histoire de l'incarnation.
J'essaie de voir comment exactement Genèse 1 puis Genèse 2 sont réunis. Vas-y, toi, commence parce que j'essaie de voir. Tu sais, je sais comment le
Ouais.
Christ il récapitule Adam, là, mais comment que ça se fait particulièrement dans, genre, par rapport à Genèse 1 puis Genèse 2. Tu sais, c'est clair que dans le baptême de Jésus, il y a une référence à Genèse 2, là. C'est évident, mais peut-être aussi Genèse 1, puisque c'est le ciel et la terre, puis là, le Christ, il sort de l'eau, puis là, l'Esprit descend sur lui, tu sais, puis ça devient, il devient comme un nouvel Adam.
Je pense aussi dans le fait qu'il arrive à la fin, là, ou dans Genèse 1, chronologiquement, on voit l'homme qui arrive à la fin, puis c'est à toutes les étapes de création dans Genèse 1, c'est il y a comme une séparation qui est faite, puis ensuite ça va comme revenir à un microcosme. Fait que des journées 1 à 3, ça va culminer avec la création des plantes. Donc on va comme séparer la lumière de la nuit, puis ensuite ça va être réuni dans l'arbre qui comme prend la lumière du sol, mais qui prend la lumière du ciel, mais qui est comme plongé quand même dans la nuit, dans l'eau. Puis après ça, il va y avoir une autre séparation, la quatrième journée, cinquième journée, avec comme il y a on peuple, disons, les étoiles dans le ciel, les poissons dans l'eau. Ensuite, ça va finalement être tout réuni dans l'homme à la sixième journée. Puis après, ce que je vois, disons, en fait, on pourrait même dire dans l'Ancien Testament, c'est il y a une autre, disons, séparation qui se fait là, avec le péché dans le monde. Puis là, c'est moins. C'est beaucoup plus gros comme histoire, là. Fait que je serais pas capable de le cadrer, disons, aussi systématiquement puis rapidement que ce qu'on a dans Genèse 1, mais il y a, disons, plein de dualités qui viennent d'être introduites avec la chute. Puis, ultimement, toute cette histoire-là va être récapitulée et résolue dans l'histoire de l'incarnation. Donc, c'est encore une union du ciel et de la terre, mais c'est plus profond que ce qu'on avait dans la troisième journée ou la sixième journée de la Genèse.
Oui,
Je le vois beaucoup comme ça aussi.
t'sais, dans le fond, si on pense à. T'sais, on peut vite le passer à travers, là, t'sais, au niveau juste. T'sais, sans nécessairement faire la distinction entre Genèse 1 et Genèse 2, mais comment que l'imagerie de la création de Genèse 1 et de Genèse 2, ils sont récapitulés dans l'histoire de Jésus. À la nativité, t'as un exemple où t'as la chorale céleste, t'sais, puis là, tu as les bergers, puis les bêtes qui sont en bas. Puis que là, les deux, t'sais, un se révèle à l'autre, puis dans cette révélation-là, ils trouvent l'incarnation, là, t'sais, qui est cachée, disons, dans le monde. Ça, c'est un exemple. Un exemple où on voit la structure. T'sais, il y a tous les exemples où Jésus, l'exemple où il marche sur l'eau, où il calme la tempête. Ça, c'est des exemples où Jésus agit comme Adam, là. Par exemple, quand il marche sur l'eau, ça dit au début, t'sais, qu'il est allé sur une montagne pour prier, puis là, les disciples sont allés sur le bateau, puis là, il descend la montagne. C'est comme Adam, on pourrait dire, là, t'sais, qui descend pour nommer les choses, puis là, il vient maîtriser le chaos, puis marcher sur l'eau, t'sais, pour montrer qu'il est comme le maître de la création. D'ailleurs, saint Ephrem utilise cette image-là dans ses hymnes au paradis, là, où il décrit le saint qui descend la montagne puis qui marche sur l'eau, là, c'est pour dire que celui qui vient d'en haut, tout lui appartient ou tout est accessible à lui. Puis là, ultimement, c'est certain que la croix, c'est ça, là. C'est la croix,
Oui.
c'est l'union du ciel et de la terre d'une façon assez radicale, là. Puis, tu sais, des fois, les gens ont dit, mais pourquoi, tu sais, dans l'histoire, est-ce que tu vois vraiment qu'une. Tu sais, c'est sûr que oui, la croix elle-même, là, comme forme, mais aussi le fait que quand le Christ meurt, il va aussi dans le Saint des Saints, là. Fait que c'est comme unit le Saint des Saints avec la mort, unit le truc le plus haut avec le truc le plus bas, dans la. Fait que, tu sais, c'est comme le thème de Genèse 1 et 2, il revient systématiquement dans l'histoire de Jésus.
Je pense que c'est surtout dans cette union-là que tu viens de faire que je vois vraiment Genèse 1. Genèse 1, c'est tout le temps ça. C'est tout le temps d'essayer de connecter le ciel et la terre. Fait que Genèse 1, je le vois bien comme ça. Dans l'aspect Genèse 2, c'est aussi le fait que dans Genèse 2, Adam doit nommer les choses, puis en nommant les choses, il vient recréer les choses, disons, amener les choses plus haut dans la création. Puis je pense que c'est aussi ça que Jésus faisait dans son histoire. Il venait nommer les choses. Puis changer ontologiquement les choses aussi à travers ça.
Ouais, ben
Puis
écoute, un exemple là, tu sais, qui va surprendre les gens peut-être un peu là, de Genèse 2 dans l'Évangile, c'est quand Jésus il rencontre la Samaritaine. Parce que dans le fond, l'idée de c'est de comprendre que Jésus il cherche une compagne. Tu sais, il se marie pas avec la Samaritaine dans l'histoire, mais c'est ça qui est en train de se passer dans cette histoire-là. Fait que là, elle vient de, comment je peux dire, dans ce cas-ci, elle la représente vraiment la terre, là, t'sais, parce que là, elle vient lui apporter de l'eau. Puis là, lui, il dit, ben moi, t'sais, toi, tu offres l'eau d'en bas. T'sais. Puis il dit, moi, je vais t'offrir l'eau active, je vais t'offrir l'eau d'en haut. T'sais. Puis ces deux, puis cette eau-là est comme, t'sais, elle va couvrir ou t'sais, elle va est plus que l'eau que tu m'offres. Puis t'sais, en faisant ça, il la nomme parce que là, il lui dit, t'sais, t'es qui? Il dit, t'as tant de mari, t'as tant de trucs, t'sais, il la connaît. Puis en la connaissant aussi d'ailleurs la structure, tu sais, je ne sais pas si on a déjà parlé ici, là, mais tu sais, la dame, elle a cinq maris, puis son sixième mari, c'est pas un mari, il est comme illégitime, fait qu'elle a comme six hommes dans sa vie, puis là, Jésus apparaît comme le dernier, là, comme celui qui va finaliser la structure. Fait que c'est clair que dans l'histoire de la Samaritaine, là, ça part de. Mais ça fait les deux, dans le fond, ça fait Genèse 1 et Genèse 2. Là.
puis, tu sais, je pense Genèse 2 surtout. Puis là, on peut parler, en fait, on peut parler de Genèse 3 aussi parce que, disons, au moins pour le dire rapidement, là, il y a la chute qui se passe dans Genèse 3, Genèse 4. Ensuite, il va y avoir un paquet d'éléments que Jésus va comme retraverser à l'envers jusqu'à temps qu'il arrive sur la croix, là, où, par exemple, Adam et Ève, quand ils sont chantiers, ils vont se faire descendre la montagne, ils vont se faire piquer par les épines des buissons, ils doivent se couvrir de vêtements. Ensuite, leur fils Caïn va avoir une autre chute, puis là, il va aller se réfugier dans une ville. Mais tu peux voir Jésus comme retraverser ces étapes-là pour se rendre vraiment jusqu'à la croix, là, où il va rentrer dans l'Empire romain, c'est la ville. Dans cette ville-là, pendant la semaine sainte, il va être dans le jardin des. Il va comme remonter dans le jardin. Il y a la scène du jardin des Oliviers. Il va porter la couronne d'épines qu'on a dans. Ben, qui allait piquer les descendants de Adam et Ève. Il y en a plein que j'oublie, puis je pense qu'on pourra en parler plus, mais. C'est comme s'il est en train de retourner comme toutes les étapes de la chute de Genèse 3 à Genèse 2, puis là où on peut voir, c'est exactement la même chose que la création d'Ève quand Jésus est sur la croix puis se fait percer le côté là. Il est mort, il est percé sur le côté. T'as l'eau et le sang qui coulent, qui sont l'Eucharistie plus le baptême qui vont créer l'Église. En plus, c'est comme à ses pieds, t'as
De la
l'Église.
Vierge et Saint-Jean là, qui sont là comme pour être l'Église, pour être ensemble pour devenir l'Église. Non, c'est clair, les pères d'Église, ils font constamment le lien entre la création d'Ève, puis le côté du Christ qui est percé, là, puis son sommeil, sa mort comme le sommeil d'Adam, tu sais, dans les chants liturgiques d'ailleurs, dans la Semaine Sainte, là, tu sais, tu vois. Que la tu sais qu'il voit immédiatement cette association-là. Puis comme tu dis, c'est totalement cohérent là, tu sais, que c'est une image d'une recréation. C'est pour ça que Saint-Maxime il dit, c'est, tu sais, que Jésus crée le monde quand il est sur la croix là, parce que c'est comme un peu une récapitulation de Genèse 1 puis de Genèse 2 qui se passe là.
Ouais, puis je pense que tu vois vraiment les deux côtés parce que d'un côté, chronologiquement, Jésus y arrive après plein de choses. Ça fait des milliers d'années que le monde existe, il s'est passé plein de choses, plein de problèmes. Fait qu'il vient récapituler ça, mais il vient aussi tout le recadrer puis le recréer. Fait que l'aspect récapitulé, je vois plus ça comme Genèse 1, comme Adam qui arrive à la fin puis qui réunit tout le ciel et la terre. Ben, Jésus vient faire ça à plus grande échelle aussi quand il est sur la croix, mais aussi il vient faire comme dans Genèse 2, puis il a nommé les choses, il a comme recadré toute l'histoire, puis on va voir que ça va comme débouler après, là. Ça va être long avant que les gens comprennent. On dirait que les disciples commencent à comprendre juste à la Pentecôte, en fait. Là, comme l'histoire commence à tomber en place, puis après, ils vont influencer, puis effectivement, comme 2000 ans plus tard, on voit clairement, même des gens séculiers vont admettre aujourd'hui que le christianisme a complètement recadré notre vision de voir les choses, notre vision morale du monde, etc. Fait que je vois cet aspect-là comme Genèse 2, actif de l'homme, de Jésus qui vient renommer puis recadrer toute la création ultimement. Puis je vois aussi l'aspect Genèse 1 qui vient comme réunir les extrêmes du ciel et de la terre. Fait que c'est pour ça que je vois que c'est comme une troisième création, on pourrait dire, là, dans l'histoire de l'incarnation.
Oui, c'est ça. Non, en effet, tu sais, puis je pense que tu as raison que quand on va, tu sais, d'une certaine façon, c'est dur de traiter Genèse 1 et Genèse 2 séparés sans arriver à Genèse 3, si on veut comprendre toute l'ampleur de l'histoire. Fait que je pense que quand on va faire Genèse 3, on va pouvoir revisiter aussi même les thèmes qu'on a vus dans Genèse 1 et Genèse 2, puis montrer encore plus là, comment que dans l'histoire de Jésus, il y a comme une culmination de tout ça, là.
Puis c'est peut-être pas un hasard que, comme on disait présentement, ça commence à être plus facile, disons, de comprendre comment Genèse 1 et Genèse 2 peuvent être réconciliés, comment la métaphysique classique troisième personne peut être réconciliée avec la phénoménologie qu'on voit dans Genèse 2. Puis c'est peut-être pas un hasard que ça arrive aussi dans les suites du christianisme autour de figures chrétiennes aussi. Donc, je serais pas surpris que ce soit tout... quand même une suite de la même structure là qu'on a parlé. Mais
Oui, puis ça va être intéressant de voir aussi avec le temps comment, tu sais, jusqu'à quel point les gens vont avoir la volonté de réexaminer les textes, de réexaminer les histoires, puis de les voir. T'es sous une autre lumière là, que la façon dont les gens les ont regardés disons, au 19e siècle. On a encore les relents de ça, mais comme tu dis, t'es avec les gens qui commencent à comprendre l'importance de l'intelligence, de la conscience, de tous les aspects que l'être humain apporte pour même l'idée que le monde a des qualités quelconques, là, que le monde peut être quantifié et peut être reconnu. Ben, c'est ça. Je pense que. J'espère que les gens vont en même temps revisiter ces histoires-là.
fait que nous, on va se revoir dans quelques semaines pour Genèse 3. Merci d'avoir été là tout le monde. Merci Jonathan. On se revoit bientôt.
Super. À bientôt tout le monde.